Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces projets, merci pour ces événements. Nous te les confions. Nous savons que nous avons besoin de toi. Et nous prions que chaque personne qui rentre dans cette salle, que ce soit jeudi à l'étude, vendredi pour la soirée, jeunesse en mission ou un dimanche, que chaque personne puisse recevoir quelque chose de ta part. Merci aussi, Seigneur, pour ce temps d'écoute de ta parole. Rends-nous attentifs et aide-nous à avoir des oreilles et un cœur ouvert. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Philippiens et au chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Il s'agit de la cinquième prédication à partir de l'épître de Paul aux Philippiens. Si vous voulez avoir un résumé des autres, eh bien, vous pouvez soit les écouter sur le site, soit demander à ceux qui ont apporté le message une prédication personnalisée ou alors d'avoir leurs notes. Tout est possible, je pense. Philippiens 3, verset 1 à verset 14. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et en me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, versets 1 à 14. J'ai décidé de diviser ce texte en trois parties. La première partie, réjouissez-vous dans le Seigneur, verset 1. La deuxième partie, méfiez-vous de ceux qui font semblant d'être au Seigneur, versets 2 à 9. Et la troisième partie, efforcez-vous de mieux connaître le Seigneur. Versets 10 à 14. La joie, les faux ou les pseudo-chrétiens et la connaissance de Jésus-Christ. Réjouissez-vous dans le Seigneur, verset 1. L'épître de Paul aux Philippiens est appelé parfois l'épître de la joie, parce qu'il est souvent question de la joie malgré les tribulations et les difficultés. Et comme Paul dit ici, réjouissez-vous dans le Seigneur, il le répète au chapitre 4, verset 4, quand il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Trois fois, il est dit, au moins, dans cet épître. Et malgré le fait qu'on soit parfois déçu, découragé, fatigué, las, abattu, le chrétien peut toujours se réjouir dans le Seigneur grâce à des choses qui ne changeront jamais. Dieu m'a pardonné. C'est un acquis. On peut toujours se réjouir, malgré tout, de ce que Dieu m'a pardonné. Dieu m'a adopté dans sa famille. Dieu m'a régénéré. Je suis passé par la nouvelle naissance. Dieu m'accompagne jour après jour. Dieu me console jour après jour. Ce sont des choses qui ne changeront jamais. Et même si parfois on est cassé, même si parfois on est à bout, dites-vous bien, je peux me réjouir dans le Seigneur grâce à des choses qui ne changeront jamais. Parce que Dieu et ses promesses ne changeront jamais. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Deuxième point, méfiez-vous de ceux qui font semblant d'être au Seigneur. Paul lance une mise en garde aux chrétiens qui habitent dans la ville de Philippe, qui se trouve en Grèce. Une mise en garde parce qu'il y avait des gens qui venaient troubler l'Église. Et Paul n'est pas tendre avec ces gens-là. Il les appelle des chiens, des mauvais ouvriers et des faux circoncis. Alors, pensons à ces mots. D'abord, le mot « chien ». Alors, nous, dans notre culture, on a des chiens, des petits toutous qui mangent à notre table parfois, qui dorment sur notre lit, parfois dans le lit avec nous. Enfin, ce n'est pas mon cas, hein. Mais c'est des petits toutous qui sont sympathiques. Mais à l'époque de l'apôtre Paul, au premier siècle, les chiens étaient toujours dehors. Et les chiens n'étaient pas des petits toutous, des petits animaux domestiques. Et quand un juif appelle quelqu'un un chien, c'est tout sauf être positif. C'est un terme très péjoratif qu'ils employaient pour décrire d'abord les non-juifs. Mais ici, Paul est en train de décrire des juifs qui troublent les chrétiens comme des chiens. Ce n'est pas du tout un terme pour honorer quelqu'un. Très péjoratif. Le deuxième terme qu'il emploie, ce sont des mauvais ouvriers. Alors, Paul se considérait un ouvrier du Seigneur. Il voulait travailler avec le Seigneur comme le Seigneur. Mais il décrit ces gens-là comme des mauvais ouvriers, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas le même maître que l'apôtre Paul. Des gens qui ne travaillaient pas pour Dieu, mais qui travaillaient au mieux pour eux-mêmes ou au pire pour le diable. Donc Paul dit, ces gens-là, faites gaffe, faites attention. Ne les écoutez pas. Ce sont des chiens, ce sont des mauvais ouvriers, et ce sont des faux circoncis. Tout de suite après, il parle des vrais circoncis. Encore un terme un peu bizarre, mais quand il dit « ce sont des faux circoncis », Paul nous dit « ils n'ont pas le Saint-Esprit ». Donc, bien qu'ils soient juifs, ils ne sont pas convertis. Bien qu'ils soient juifs, leur fierté est en eux-mêmes, dans la circoncision de la chair. Leur confiance n'est pas en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Paul dit, faites attention, ils sont des chiens, des mauvais ouvriers et des faux circoncis. Et Paul continue en disant, en ce qui concerne un vrai circoncis, eh bien, c'est quelqu'un qui est circoncis à l'intérieur. La circoncision du cœur. Parce que c'est le cœur qui compte. Ce n'est pas des aspects extérieurs, c'est le cœur qui compte. Et Paul dit que les vrais circoncis, c'est-à-dire les vrais chrétiens, c'est leur cœur qui est touché. Et quand ils adorent Dieu, et il est dit, grâce au Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Il faut que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Et sont conduits, bien sûr, par le Saint-Esprit. Et Paul dit ici que les vrais chrétiens, leur fierté, leur confiance n'est pas en eux-mêmes. Et cela a été dit et redit d'ailleurs depuis le début du culte. Leur confiance est uniquement en Jésus-Christ. Au début de l'épître de Paul aux Romains, Paul dit, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et quand il dit « Je n'ai pas honte », il dit littéralement « Je suis fier de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc si Paul parle de la fierté, de la confiance, il dit « Ne faites pas confiance à vous-même, que votre confiance ne soit pas dans vos acquis ou dans votre connaissance, que votre confiance soit uniquement en Jésus-Christ. » C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a pardonnés. Et ça peut sembler un peu technique pour certains, mais vous savez, l'enjeu est de taille. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur leur accomplissement personnel, sur leur savoir-faire, sur leur mérite, afin d'être pardonnés. Tandis que le Nouveau Testament est clair, pour être pardonné, cela ne dépend pas de nos mérites, de nos diplômes universitaires, de notre intelligence, de notre savoir-faire. Notre salut dépend uniquement de l'amour immérité de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que si vous êtes converti, si vous êtes un vrai chrétien, vous êtes un vrai circoncis. C'est le cœur qui est circoncis. Cependant, Paul ne se contente pas d'en arrêter là. Il remet une couche, comme on dirait. Et il dit, mais si quelqu'un veut se vanter d'essayer de mériter l'amour de Dieu, eh bien, moi, Paul, je suis bien placé. Et voilà ce qu'il dit. Il ouvre en quelque sorte une parenthèse. Et si Paul voulait se vanter, il donne une liste de 8 choses, 8 critères qu'il avait dans sa vie, qui auraient pu peut-être attirer l'amour de Dieu, mais il dit, ces choses-là ne valent rien. Parce que quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais attirer l'amour de Dieu. Alors, voilà ce qu'il dit. Et c'est bien dans le texte, même si j'ai inversé 7 et 8. Je vous demande de m'excuser cette petite faute. Il dit, j'étais circoncis le 8e jour. Je suis juif. Dieu doit m'aimer. Dieu doit me pardonner. Ben non, la circoncision ne vaut rien. Il aurait pu dire comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'était son cas. Il est tombé dans la religion juive quand il était petit. Deuxième chose, je suis israélite. Oui. Je suis descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais aux yeux de Dieu, dans un sens, ça ne vaut rien. Ça ne compte pas par rapport à la grâce de Dieu. Troisièmement, je suis de la tribu de Benjamin. Alors certains vont dire, mais Benjamin, c'était peut-être la tribu la plus petite. Mais vous savez peut-être que Benjamin était le plus jeune fils de Jacob. Benjamin, c'était le seul fils de Jacob né en Terre Sainte. Et la tribu de Benjamin était une tribu qui était fidèle au roi David lorsque toutes les autres tribus, à part la tribu de Juda, l'avaient abandonné. Il aurait pu se vanter, mais je suis benjaminite. Mais Paul savait que ça ne valait rien. Je suis hébreu, né d'hébreu. Je suis un pur sang, je n'ai pas de sang d'immigré. Ça ne valait rien, j'avais un pédigré parfait, il aurait pu dire. Il continue, je suis pharisien, ou j'étais pharisien, membre de ce groupe très strict, avec une connaissance parfaite de la loi de Dieu. J'étais zélé, et quand il était zélé, il était même persécuteur des chrétiens. Et par rapport à la loi, j'avais une vie impeccable. Pour résumer, Paul était un juif pur et dur, le top des tops, la crème de la crème, un parcours religieux sans faute. Mais malgré cela, il avait besoin de se convertir. Tout ce qu'il avait accompli, son éducation, sa famille, sa pratique religieuse, il dit, ça ne vaut rien. Il dit, c'est comme des ordures. Dans une autre version, il dit, c'est comme du fumier. C'est sale, ça ne vaut rien. Il savait qu'il avait besoin de se convertir. Il savait que le salut s'obtient non pas par les œuvres, mais par la foi. Il savait que ce qui comptait n'était pas ce que moi j'ai fait, mais ce que Jésus a fait. Non pas ce que moi j'ai accompli, mais ce que Jésus a accompli sur la croix. Et on reçoit par la foi. Pour traduire son parcours en termes franco-français, je vous propose l'illustration suivante. Admettons que je ne suis pas David Sutton, je suis quelqu'un d'autre. Et je viens vous dire, je suis né dans une famille croyante. Mes parents vont à la messe tous les jours. Plusieurs de mes tontons, de mes grands-tontons, étaient curés et pères blancs. Une tante aujourd'hui, elle est bonne sœur dans un couvent. Quand j'étais bébé, j'étais baptisé. J'ai fait ma petite communion, ma grande communion, ma communion solennelle, toutes les communions qui existent, je les ai faites. Jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais toujours habillé en bleu et jaune. Vous savez pourquoi? Les couleurs de Marie. Toute bonne catholique est habillée en bleu et jaune pendant son enfance. Pendant des années, j'étais enfant de cœur. Ma mère, même aujourd'hui, à 96 ans, fait le ménage dans l'église de notre paroisse. C'est pour vous dire que je suis vraiment un bon chrétien. J'ai effectué des pèlerinages à Lourdes, à Lisieux, à Fatima et à Notre-Dame-du-Chêne. Notre-Dame-du-Chêne est dans la Sarthe et c'est le deuxième ou troisième lieu de pèlerinage en France. Je donne le dernier de culte, je dis la messe en latin, je récite le Je vous salue avant chaque repas. Une fois par semaine, je monte à Fourvière pour embrasser les pieds de la statue de Jean-Paul II. J'ai une affiche dans ma chambre du pape actuel, grandeur nature. Je suis un bon chrétien. Dieu doit me pardonner mes péchés. C'est vrai ou c'est faux? Paul a dit exactement la même chose. Mais il a dit, mais Dieu m'a pardonné parce que j'ai demandé pardon. Tout ce que j'ai accompli ne vaut rien. Et si quelqu'un vous parle avec ce même discours que je viens de faire avec un petit sourire, eh bien, vous pouvez leur dire, mais messieurs, madame, mon ami, tu as besoin d'oublier tout ça et de te mettre à genoux devant la croix et accepter la grâce qui est un don. Dieu nous aime, non pas à cause de nos mérites, mais Dieu nous aime malgré ce que nous avons fait. C'est comme des ordures, une perte, du fumier. Ce n'est pas par les œuvres que le salut s'obtient, mais c'est par la foi en Jésus seul. Donc si quelqu'un ici ce matin croit que Dieu va lui pardonner, le recevoir dans le paradis à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce que vous avez fait, eh bien, détrompez-vous. C'est grâce à ce que Jésus a fait, à notre réaction par rapport à ça, que Dieu va nous recevoir dans sa présence. Méfiez-vous de ceux qui disent autre chose que le vrai évangile. Troisième aspect de ce texte, efforcez-vous de mieux connaître le Seigneur. C'est ce que Paul dit. Je veux connaître Jésus. Alors, on peut dire, mais Paul, si tu es déjà converti, mais tu connais Jésus. C'est vrai, mais je veux mieux connaître Jésus. Dans ces derniers versets, il y a surtout deux pensées que je veux souligner. Il y a l'idée de la connaissance et il y a aussi l'idée d'une course. Parce que Paul parle de connaître, mais il parle aussi de courir. Il veut mieux connaître Jésus. Alors, comment est-ce qu'on peut mieux connaître Jésus? Hier, un couple est venu manger chez nous. Un couple qui m'avait demandé il y a quelques semaines si je pouvais officier leur mariage. Et j'ai dit, avec Brigitte, il faut qu'on fasse connaissance. On se connaissait très peu. Ils sont venus passer une bonne partie de la journée avec nous hier, et pour faire connaissance, on a passé du temps ensemble. On leur a parlé. On les a écoutés. On leur a posé des questions. Ils nous ont posé des questions. Et à 18h, quand ils sont partis, on s'est dit, oui, on a fait connaissance. On les connaît mieux que hier matin à 10h. Pour faire connaissance avec Jésus, il faut passer du temps avec. Il faut lui parler. Il faut l'écouter. Et le meilleur moyen pour écouter Jésus, c'est de lire ce livre, la parole de Dieu. Je vais vous révéler un secret. Je sais que ce message était enregistré, et ce n'est pas de mon genre de révéler des secrets en public, mais un secret personnel. Ma femme est au courant. Je connais Theresa May, le premier ministre britannique. Je sais qu'elle est née 6 mois avant moi. Je sais qu'elle était employée de banque avant d'être élue députée il y a 21 ans. Je sais qu'elle faisait partie du monde, elle était membre du gouvernement fantôme britannique avant d'être membre du gouvernement de David Cameron. Elle était ministre. Vous voyez, je connais Theresa May. Je sais qu'elle est mariée depuis 38 ans. Avec son mari, ils n'ont jamais eu d'enfant. Tous les dimanches, elle va au culte dans une église anglicane. Je sais qu'elle souffre du diabète de type 1, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, elle est insulinodépendante depuis 4 ans. Vous voyez, je connais Theresa May. Je peux vous dire plein de choses à son sujet. Est-ce que je me permettrais de l'appeler Theresa, de la tutoyer et d'aller sonner chez elle pour boire une tasse de thé avec un nuage de lait? Bien sûr, je sais plein de choses au sujet de Theresa May, mais je ne la connais pas. Et un jour, si je la rencontrais pour lui parler, elle pourrait me dire, mais David, Monsieur Sutherland, vous êtes qui? Je ne vous connais pas. Il y a des gens qui parlent de Jésus comme ça. Mais je connais Jésus. Je connais, je crois en lui. Je sais qu'il est né à Noël. Je sais que Pâques, c'était un moment important dans sa vie. Je sais qu'il était barbu et dans les films, il a les yeux bleus. Il a bien parlé. Je connais Jésus. C'est vrai ou c'est faux? Ceux qui parlent comme ça, c'est faux. Ils savent des choses au sujet de Jésus. Mais ce n'est pas sûr qu'ils connaissent Jésus personnellement. Alors Paul connaissait Jésus. Mais il ne se contentait pas d'une connaissance superficielle. Il voulait aller plus loin. Il voulait le connaître de plus en plus, de mieux en mieux. Et pas seulement connaître Jésus, il dit, je veux connaître et partager sa puissance. Alors, tous les chrétiens vont dire, amen, j'espère. Mais Paul dit, je veux connaître et partager sa souffrance. Alors, tous les chrétiens vont dire, surtout pas amen. Je veux connaître Jésus. Je veux connaître sa puissance. Mais sa souffrance, je ne veux pas trop. Paul était prêt non seulement à connaître Jésus et à recevoir sa puissance pour le combat de tous les jours, mais il était prêt à souffrir, à partager sa souffrance. On a chanté quelque chose comme ça tout à l'heure, je crois bien. Il voulait vraiment connaître Jésus. On peut dire, la priorité de l'apôtre Paul était de connaître Jésus de mieux en mieux. Alors, si vous êtes chrétien, vous connaissez Jésus. Et vous savez plein de choses à son sujet. Mais jusqu'à quel point est-ce que vous connaissez bien le Seigneur Jésus? Il vous connaît intimement, parfaitement. Et jusqu'à quel point est-ce que nous le connaissons? Il y a quelques années, j'ai lu dans une revue pour enfants, de la Ligue pour la lecture de la Bible, une lettre d'une fille, Anna, de 11 ans. Elle a dit ceci. J'aime les chevaux. J'aime les dauphins. J'aime aussi le sport. Je fais du tennis. Je fais de la natation. Mais par-dessus tout, j'aime Jésus. Point. 11 ans. Elle aimait plein de choses. Mais sa priorité, aimer Jésus. Quelle est notre priorité? Connaissance du Christ. Et courir. Paul sait qu'il est en train de courir. Il y a deux images qui résument parfaitement la vie du chrétien. L'image du combat, et on en a parlé, l'image de la course. Paul dit, je cours. Je ne sais pas si vous êtes athlète, si vous aimez courir, selon la tête de nos deux personnes que je vois, ils me disent, quand j'étais ado, j'ai participé une fois à une course à pied. Enfin, je dois dire deux fois, une fois à un sprint, mais une fois à un cross-country. Donc, c'est pas un marathon, mais pour moi, c'était comme un marathon. Et sur 189 participants, devinez où j'étais. 187e. Troisième avant la fin. Merci. On m'a applaudi aussi ce jour-là. J'avais un peu honte. J'avais mal. Je craignais un arrêt cardiaque. J'ai cherché mon respiration. Mon cœur battait à 250 minutes. Mon entraîneur est venu me féliciter. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai terminé la course. Certains ont abandonné. Tous les 10 mètres, j'étais tenté d'abandonner. Mais j'ai fini la course. Et mon entraîneur était content. Je n'oublierai jamais. Quand il est venu me saluer, me prendre dans ses bras, me donner une serviette, etc. Eh bien, Paul, il court. Et il court pour plaire à son entraîneur. Et il sait qu'un jour, il va voir son entraîneur, qui va le remercier, qui va le féliciter. Mais en courant, Paul est conscient qu'il a un passé. Mais il dit, je veux oublier ce qui est derrière. Je veux foncer vers l'avant. Un chrétien, on a tous un passé. Parfois un passé lourd, parfois un passé chargé. Mais on a tous un passé. Et par rapport à notre passé, parfois on est tenté de se glorifier de notre passé. Parfois on est tenté de se culpabiliser de notre passé. Mais Paul ici, il est clair. Je veux oublier tout ça. Même si le diable me rappelle des bêtises et des péchés, des crimes, je veux oublier. Tout ça, c'est pardonné. Et je veux aller de l'avant. Je veux courir. Et je sais qu'un jour, j'aurai le prix de l'appel céleste que Dieu me donnera. Dans la vie de tous les jours, vous êtes dans une course, les amis. Ce n'est pas un sprint. De 100 mètres, c'est un marathon. Et ça dure beaucoup plus longtemps. Et dans cette course dans laquelle nous sommes engagés, il y a des virages. On ne voit pas toujours tout droit. Il y a des cols qu'il faut monter puis redescendre. Il y a des barrières qu'on doit sauter par-dessus. Il y a parfois des trous, on doit regarder où on met les pieds. Il y a des pavés qui ne sont pas très égaux. Mais dans la course, le Seigneur nous appelle à le suivre. Et à oublier ce qui est derrière, et à oublier qui court avec nous. Vous savez, dans une course, l'erreur fatale, c'est de regarder est-ce que je suis premier ou est-ce que quelqu'un va me doubler. On regarde en avant. Et Paul tient à regarder en avant. Vous savez, il y a des chrétiens qui se compliquent la vie. Il y a quelques années, un ami médecin voulait, il faisait du footing tous les jours, et il m'a dit, David, tu devrais... C'était un ordre. Tu devrais venir faire un footing avec moi. Donc, on a décidé du parcours. Et quand on s'est habillé pour courir, j'ai vu qu'il mettait quelque chose à ses mollets. Et c'était des poids. Des plots. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est pour avoir plus d'effort. Il faut que je m'efforce encore plus pour lever le pied chaque fois pour courir. Et je me suis dit, mais si je mets des pieds sous mes mollets, je ne vais jamais soulever un seul pied. Mais il est des chrétiens. Donc, je me suis dit, il se complique la vie. Mais pour lui, il était ravi parce que c'était pour lui faire du bien. Donc j'ai fait une fois un footing avec lui. Plus jamais. Mais il y a des chrétiens qui se compliquent la vie aussi parfois, dans la course. C'est comme si on met des plots ou on porte des bagages qu'on ne devrait pas porter. Le Seigneur veut nous libérer de ça, afin qu'on puisse pas seulement marcher, mais afin qu'on puisse courir avec lui. Alors, je vous lance le défi. Est-ce que vous êtes prêts à vous prendre en main pour courir, ou plutôt pour continuer à courir, ou peut-être pour commencer à courir? Oubliez ce qui est derrière, oubliez ceux qui sont derrière, regardez vers l'avant, regardez vers l'arrivée. Et est-ce que vous êtes prêts à faire meilleure connaissance de Jésus-Christ? La priorité de Anna, 11 ans, par-dessus tout, j'aime Jésus. Pour faire connaissance, pour faire meilleure connaissance, il faut passer du temps avec. Il faut lui parler. Il faut l'écouter. Il faut le questionner. Il faut répondre à ce qu'il nous dit. Il faut réfléchir parfois en silence avec quelqu'un. Il faut regarder la personne, comment la personne parle, comment la personne agit, comment la personne réagit. Avec Jésus, on peut regarder plein de choses dans les évangiles, dans la parole de Dieu. Et on peut faire meilleure connaissance avec Jésus. Pour terminer, j'aimerais afficher sur l'écran les paroles de deux chants qui parlent de cette connaissance intime avec Jésus. Le premier est un chant assez ancien. Quand je dis ancien, ça remonte à 40 ans. Et l'autre est un chant plus récent qu'on chante parfois un dimanche. Je vais juste lire les paroles comme une prière pour terminer ce message et pour terminer ce culte. Tu peux appuyer, s'il te plaît? Merci. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te connaître. Toujours mieux te connaître. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te connaître. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est de t'aimer. Oui, toujours mieux t'aimer. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est de t'aimer. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est de te servir. Toujours mieux te servir. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te servir. Vous voyez l'ordre. Connaître, aimer, servir. Ça peut être aimer, connaître, servir. Certains servent sans trop connaître, sans trop aimer. Mais trois verbes essentiels. Et le deuxième chant, ce qui est basé sur Philippiens 3, 8 à 14. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître. Il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie, ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Connaissance, course. Connaître, courir. Amen.